Ce podcast vous est proposé par la plateforme Livy.
Bonjour, je m'appelle César Ancel-Ancel. Je suis médecin généraliste et urgentiste. Bienvenue dans Patient, saison 2.
Sanam et l'obésité.
Plus de 8 millions de Français adultes sont en situation d'obésité. Et ce chiffre tend à se multiplier dans les années à venir. L'obésité ne se résume pas qu'à une mauvaise alimentation. C'est une maladie chronique, évolutive, complexe et multifactorielle. Elle peut ainsi affecter le bien-être physique, psychologique et social. Comment perçoit-on les injonctions et les conseils quand on est en situation d'obésité? Comment faire de son bien-être sa priorité? Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Sanam, qui va nous raconter son quotidien avec l'obésité. Bonjour Sanam.
Salut.
Sanam, est-ce que ça te va si on se tutoie?
Avec plaisir.
Comment vas-tu?
Bah ça va super bien et toi?
Bah ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, avec plaisir. Alors moi c'est Sanam, j'ai 33 ans, ça fait 10 ans que j'habite en région parisienne et ça fait une vie que je suis obèse.
L'obésité, qu'est-ce que ça signifie pour toi?
L'obésité pour moi c'est clairement mon mode de vie depuis toujours puisque j'ai dû faire face à tout et tout le monde avec cet aspect-là physique que j'ai depuis toujours.
À quel moment de ta vie le terme obésité a été prononcé pour la première fois? Comment ça s'est passé?
Je m'en souviens pas concrètement parce que j'étais petite, mais je l'ai lu sur mon carnet de santé quand j'avais 4-5 ans où mon médecin disait que j'avais pris 4 kilos en un an et que je frôlais l'obésité.
Et donc, comment ça a été perçu par ton entourage, par tes parents?
Par moi, je l'ai vécu comme ça, mais par mes parents et surtout pour ma maman, ça a été très compliqué depuis toujours, d'autant plus que nos origines, c'est vraiment le culte de la minceur. Donc depuis toujours, elle s'est battue avec ça et donc voilà.
Le culte de la minceur dans ta famille, du côté de ta maman?
Du côté carrément du pays entier, mais c'est drôle, c'est paradoxal parce que dans ma famille, tout le monde est gros.
De quel pays tu parles?
Je suis iranienne.
D'accord. Et en Iran, il y a un culte de la minceur?
Mais clairement, culte de la minceur, de la beauté, de la chirurgie esthétique. Et je suis un petit peu le vilain petit canard parce que je suis la plus grosse, mais pas la seule grosse. Donc, c'est vraiment très paradoxal.
Ah, d'accord. Donc, c'est ce qui explique un peu la réaction de ta maman. Et toi, quand tu as découvert ce terme obésité, au niveau de tes premiers souvenirs, est-ce que tu as réagi? Est-ce que ça voulait dire quelque chose pour toi? Comment ça s'est passé à ton enfance et pendant ton enfance, on va dire?
Pour moi, le mot obésité, ça voulait juste dire que j'étais obèse, comme quelqu'un qui est grand, qui est mince, qui est petit. C'était juste un adjectif, en fait. J'avais pas le recul de me dire obésité, ça veut dire que je suis quelqu'un de, entre guillemets, pas normal.
Et ensuite, au passage à l'adolescence, à l'école, est-ce que tu as des souvenirs? Comment ça se passait, notamment avec tes camarades?
C'est dingue ce que je vais dire, mais j'ai eu une très, très bonne enfance et une très bonne scolarité par rapport justement à mes camarades. J'ai toujours été la bonne copine, l'élève modèle. Donc, il n'y a personne qui m'embêtait par rapport au poids parce que j'étais vraiment la camarade que tout le monde appelait quand on avait besoin, qu'on choisissait dans son équipe de sport, bizarrement. J'étais la première qui était prise, même si mon corps n'apprêtait pas à être une grande sportive d'après la société, quoi. Et donc, j'ai pas mal vécu ma scolarité.
Est-ce que tu dirais que actuellement, ça a un impact sur ta vie au quotidien?
Alors, ça a un impact oui et non. Alors, il y a quand même, mine de rien, un impact positif parce que j'en ai fait mon marketing, clairement. Et aujourd'hui, c'est ma marque de fabrique. Sanam, la grosse qui s'est fait sa place dans la société et pas n'importe quelle place. Et c'est quelque part aussi ma revanche sur la vie et sur certaines personnes et les promesses que j'ai pu faire quand j'étais petite, justement, par rapport à ça.
De quelle place tu parles?
D'une place que tout être humain a le droit et doit avoir dans cette société, c'est-à-dire d'être une personne qui a accès à tout, qui peut vivre, tout simplement, peu importe le physique qui est là.
Et donc, suite à cette réappropriation, on va dire, le regard de tes parents, tu trouves qu'il a évolué au fil du temps?
Alors, le regard de mes parents, surtout de ma maman, clairement, je me rappelle, quand j'étais petite, vraiment, d'être l'enfant grosse de la classe dans les parcs, ça l'a dérangé énormément et j'ai entendu des phrases d'elle qui m'ont marquée après coup. Et quand j'avais 11 ans, je lui ai fait la promesse que mon obésité la dérangeait elle, mais que j'en ferais mon gagne-pain et que je réussirais grâce à ça.
Quand t'avais 11 ans?
Ouais. Clairement, c'est parce que ça m'avait beaucoup trop touchée. La phrase que j'ai entendue de sa bouche, et je pense pas qu'elle le disait à mal, c'est juste qu'en fait, elle s'est mise en tant que maman de se dire oui, ma fille se fait, enfin, on l'embête ou on peut l'embêter parce que pour elle, être gros, c'est un peu une tare, on va dire. Et la phrase dont je me suis souvenue que ma maman a dit à ce moment-là, c'est qu'elle disait à sa sœur qu'elle était malheureuse parce que sa fille était grosse. Et ça m'a donné ce déclic-là de lui faire cette promesse-là. Mais aujourd'hui, avec ce que je suis devenue et qui je suis devenue, c'est une des personnes les plus fières de moi. Donc,
L'obésité, ça a eu une incidence sur ta confiance en toi, sur ton estime ?
Alors, cette notion de confiance et d'estime, elle est arrivée tard parce que jusqu'en terminale, donc j'ai une super scolarité. C'est à l'université que là, on commençait les moqueries. On se moquait de moi parce qu'en amphithéâtre, mon ventre touchait les tables et je l'ai très, très mal vécu. Ma première année d'université, je l'ai très, très mal vécu au point d'être très souvent absente alors qu'avant, je connaissais pas ça. Et vraiment, cette notion de confiance en soi est arrivée lors de ma troisième année de licence, quand je l'ai effectuée en Espagne. Donc, j'étais au bord de la mer tout le temps avec des personnes super bien foutues, en maillot de bain en permanence. Donc déjà, je me suis jamais empêchée de vivre. Hein. Je me suis toujours mis en maillot de bain. Mais j'étais par intermittence barmaid parce que un des proprios d'une boîte m'avait demandé pour justement ramener beaucoup d'étudiants, vu que j'étais étudiante. Et au moment de servir, un jeune homme espagnol a dit « Ah non, mais moi, j'ai pas envie de me faire servir par la grosse. » Et sauf que je l'ai compris. Je l'ai compris parce que j'avais des notions en espagnol. Et manque de peau pour lui, j'ai eu un déclic. Avant, je n'aurais rien dit. J'aurais juste baissé la tête. Et je lui ai rentré dedans.
D'accord. Qu'est-ce que ça fait ?
Je l'ai regardé, je lui ai dit « Ça tombe bien puisque la grosse, de toute façon, ne voulait pas te servir. »
Ok.
Et il s'est retrouvé très bête au point où, à la fin de la soirée, il est venu, il m'a demandé pardon. Et je lui ai dit « Écoute, moi, je m'en fous que l'univers te pardonne. » Et je suis partie. Et faut savoir qu'il a tellement cherché après moi qu'à la fin, c'est devenu un ami, en fait.
Excellent.
Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic de me dire, Sanam, soit va falloir que tu te fasses respecter, soit la société va te bouffer. Et c'est là que j'ai eu mon déclic de, tu es très bien comme tu es, t'es génial et go.
Tu l'as vraiment ressenti comme un déclic, comme quelque chose de brutal, comme ça ?
Clairement, parce que je pense que c'était la goutte de trop, en fait, d'accumuler des choses avec surtout la première année universitaire, tout ce que j'ai vécu aussi pendant l'enfance, etc. Et je pense que vraiment, je me suis dit, je suis dans un autre pays, dans un autre mood, et ça a créé, en fait, la Sanam que je suis aujourd'hui. Et quelque part, je le remercie, parce que sans sa phrase, sa méchanceté, ben, je serais peut-être pas la Sanam que je suis aujourd'hui.
On va rester sur le milieu professionnel. Est-ce que tu as fait face à des critiques vis-à-vis de ton poids dans d'autres circonstances ?
Alors, j'ai une expérience qui me vient en tête, c'est qu'on m'ait pris en photo à mon insu parce qu'en tant que grosse, visiblement, on n'a pas le droit de mettre de short. On était en plein été et j'ai mis un short parce que, enfin, je le rappelle juste que pour moi, l'obésité, c'était un mode de vie et non pas un frein et que je m'habillais à la mode, clairement. Je ne m'empêchais pas de vivre, mais on m'a pris à mon insu parce que, apparemment, mes grosses cuisses ne devaient pas être à l'air. Et ça, je l'ai appris bien après avoir quitté l'entreprise.
Ensuite, donc, tu as quitté cette entreprise. Maintenant, tu as un autre travail. Et dans ton travail actuel, est-ce que tu trouves que les choses ont changé ou est-ce que tu as expérimenté ce genre d'épisode ?
Alors, dans mon travail actuel, en fait, tout se passe super bien. J'ai des super collègues et je dirais même que ce n'est pas tant l'environnement qui a changé, mais c'est moi. En fait, c'est mon évolution qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit l'endroit, on me respecte, peu importe mon physique.
Et j'ai envie de revenir sur cette histoire de promesse que tu as fait à ta maman. Tu peux nous en dire un peu plus, notamment à propos des réseaux sociaux ?
Donc en fait, avant cette promesse-là, quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé la vie de star, des strass et des paillettes. C'est vraiment... ça me fait sourire parce que je sais pas d'où m'est née cette lubie-là, mais ouais, j'ai toujours aimé ce côté-là. Et petite anecdote, je me rappellerai toujours une rentrée scolaire où on est censé se présenter sur un morceau de papier avec tous les camarades pour la prof. Et j'avais mis justement à la question « Que veux-tu faire plus tard ?» J'avais mis « Je veux être une star ». Et là, ma maîtresse devant toute la classe m'avait dit « Mais Sanam, voyons, être star, c'est pas pour les gros ». Et oui, et cette phrase-là, sur le coup, j'ai pas réalisé parce que j'étais petite. Et en fait, c'est crescendo avec ce que me disait ma maman et voilà, ce à quoi on faisait face dans la société, notamment les habits, il y en avait pas à ma taille. Et j'avais fait donc cette promesse à ma maman en disant, tu verras, je réussirai parce que je suis grosse. Et ça a pas loupé. Enfin, réussir, c'est un grand mot. Mais j'ai fait ma petite place sur les réseaux avec tout ce qui est body positive, s'habiller en étant grosse dans cette société-là et l'acceptation de soi. Et aujourd'hui, j'ai une petite communauté sur les réseaux.
J'ai vu que tu avais plus qu'une petite communauté et que tu te marres bien.
Oui, non, ça va. J'ai plus de 10 000 abonnés sur Insta, plus de 24 000 sur TikTok. Et tout ça, en fait, en étant moi-même.
Ouais, c'est ça. C'est un moyen d'expression.
Exactement. En fait, j'en parlais il y a quelques jours avec une amie en disant que pour moi, Instagram, c'est mon journal intime, en fait.
Ouais.
C'est clairement mon journal intime où je dis, j'adore l'écriture. Mon rêve, ce serait d'écrire un livre justement sur tout mon vécu. Et c'est un peu les prémices de mon livre, en fait. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée, je vais la poster avec un texte.
Ouais, donc ça rejoint un peu l'idée de ce qu'on dit à propos des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a tendance un peu à les diaboliser. Mais toi, ça t'a apporté quelque chose et tu sens que ça apporte des choses aussi aux personnes qui te suivent ?
Ça a double tranchant les réseaux. Il y a du bon comme partout et du mauvais comme partout.
Salam, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de santé. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu as rencontré des problèmes de santé liés à ton surpoids ?
Bah, contre toute attente, non. Je n'ai pas rencontré de problèmes de santé liés à mon poids. Ça a des fois accentué des problèmes que j'ai pu avoir, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, mais avoir 165 kilos sur le dos, ce n'est pas normal. Et attention, hein, j'emploie le mot « normal » alors que je n'aime pas l'utiliser, mais pour vous dire qu'un corps humain, l'ossature n'est pas censée supporter autant de poids. Mais je pense que ce qui m'a beaucoup sauvée, c'est mon mindset. Parce que, comme je le dis encore, l'obésité, pour beaucoup, notamment le monde médical, c'est une maladie. Pour moi, c'était un mode de vie. Et donc, je pense que ça a beaucoup joué.
On t'a diagnostiqué récemment une sclérose en plaques. Est-ce que tu peux m'en dire davantage ?
Donc, on m'a diagnostiqué, en effet, la sclérose en plaques le 2 octobre 2019, suite à une crise inflammatoire bénigne.
Par crise inflammatoire, tu veux dire quoi ?
En fait, j'ai commencé à voir tout l'hémisphère gauche de mon corps. J'ai commencé à avoir des fourmillements. Ça a commencé par le bras, perte de force, de sensation, et ça a fait tout le côté, c'est-à-dire que même mes parties génitales étaient divisées en deux. Au travail, on a appelé le SAMU, à l'époque je travaillais en banque, on a appelé le SAMU, ils m'ont dit que je ne faisais pas d'AVC.
Ah oui, ils pensaient à un AVC initialement.
Clairement, et comme c'est moi qui ai répondu aux questions du SAMU et que le visage n'était pas touché, on m'a dit que non, c'est bon, par contre, consulter d'urgence mon médecin traitant. Et quand j'ai consulté mon médecin traitant, elle m'a dit « je ne sais pas ce que vous avez, mais ça ne présume rien de bon ». Elle m'a envoyée aux urgences et après 3 semaines d'hospitalisation, etc. On ne m'avait toujours pas donné de diagnostic d'ailleurs. On m'avait fait une liste de courses en me disant soit c'était la CEP, soit c'était une crise inflammatoire bénigne que tout le monde peut avoir une fois dans sa vie, soit c'était un cancer. Donc clairement, on m'a laissée comme ça en suspens pendant quelques mois. Et ça, c'est au mois de mars. Arrivé au mois de septembre, j'ai eu mon IRM de contrôle où là, ils ont vu une tache dans mon cerveau, la rebelote. On m'a dit soit c'était un cancer, soit c'était la CEP, soit c'était une tache de saleté dans l'IRM. Donc, autant vous dire que j'étais quand même perplexe de me dire c'est soit j'ai une maladie incurable, soit je vais faire de la chimio, soit il faut que je ramène du CIF à l'hôpital. Et quelques semaines après, un staff s'est réuni et le diag de la sclérose est tombé.
Salam, tu peux nous rappeler ce que c'est, la CEP, la sclérose en plaques ?
Alors la CEP, comme je le dis parce que sclérose en plaques, c'est trop long, c'est en fait une maladie auto-immune qui globalement en fait, s'attaque à la moelle épinière et j'ai plus de défense immunitaire et à la longue, je peux ou ne pas finir comme un légume. Donc voilà, c'est vraiment aléatoire. Aujourd'hui, il y a des traitements qui existent. J'ai des chances, de fortes chances de rester intact jusqu'à la fin de ma vie, parce que jusque-là, j'ai fait qu'une seule poussée. Et du coup, c'est une maladie bien pourrie.
Ouais, c'est ça, c'est une maladie neurologique.
C'est ça.
Qui attaque certaines fibres nerveuses, qui évoluent de façon variée selon les personnes, et pour lesquelles il y a eu énormément de progrès faits.
Exactement, c'est très aléatoire. Donc, je touche du bois, du singe, tout ce que vous voulez, pour que ça reste comme ça jusqu'à la fin de ma vie.
Tu nous l'as dit tout à l'heure, l'obésité, pour toi, c'est un mode de vie, mm-hmm. surtout. Et comment ça se passe quand on qualifie l'obésité de maladie. Toi, tu me disais, moi, j'aime pas trop qu'on parle de l'obésité comme d'une maladie. Qu'est-ce que t'en penses de ça, en fait ?
Je le maintiens. Pour moi, c'est pas une maladie. Ça peut apporter certaines maladies, clairement, tout ce qui est diabète et tutti quanti. Mais pour moi, c'est pas une maladie parce qu'à partir du moment où on se dit que ça, c'est une maladie, le cerveau va l'assimiler comme une maladie. Et ça fait que, comme moi, je me suis toujours dit que c'était un mode de vie, j'ai vécu comme une personne mince, en fait. J'ai fait exactement tout comme une personne mince, parce que c'était juste un mode de vie. Et moi, je suis beaucoup sur l'aspect mental. Dès qu'on se dit quelque chose, le corps suit. Donc, si je me dis que l'obésité, c'est une maladie, vous allez voir que tôt ou tard, je vais avoir du mal à faire certaines choses, certaines activités, parce qu'il faut savoir que du haut de mon obésité, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait 8 ans de volley en club, j'ai fait 14 ans de danse. Quand j'étais petite, je faisais du patinage artistique. Encore aujourd'hui, je fais énormément de sport. Donc, mon corps, ça l'a compris que je n'étais pas malade, j'étais juste grosse.
C'est ce qui ressort de pas mal de recommandations et de publications récentes, c'est-à-dire de ne pas stigmatiser les gens et les mettre dans une case maladie, mais d'être quand même vigilant sur d'éventuelles complications qui pourraient arriver. Toi, de ce point de vue-là, est-ce que tu as bénéficié d'un suivi ou d'un accompagnement ?
Je n'ai clairement jamais eu d'accompagnement en tant que tel. Depuis toujours, c'était « il faut voir un nutritionniste pour établir un plan, pour moins manger, pour faire plus de sport ». Mais un vrai accompagnement en tant que tel, non, j'en ai jamais eu. On m'a jamais expliqué que l'obésité, ça peut boucher des artères, donner du cholestérol, du diabète. Ça, je l'ai appris avec le temps. et aussi par rapport aux pathologies qu'il y a dans ma famille. Mais d'un point de vue médical, non, jamais d'accompagnement.
Et actuellement ?
Non plus.
Et donc, comment t'as récupéré toutes ces informations, toutes ces données ?
Disons qu'on n'a pas d'excuses. Aujourd'hui, on a Internet. Même si on y trouve tout et son contraire, je vais à la pêche aux infos. Et encore une fois, je vous dis, dans ma famille, il y a du diabète, il y a le packaging super qu'on adore. Donc, à force d'accompagner mon papa dans ses rendez-vous médicaux, de suivre tout ce qu'il a, en fait, j'ai compris un petit peu la vie. Puis maintenant, depuis que j'ai la CEP, je suis tous les 4 matins à l'hôpital. Donc, c'est limite si mes amis, des fois, ils ne me demandent pas mon avis à moi sur, des fois, un symptôme qu'ils ont. Parce que, à force d'être dans ce monde-là, on commence à apprendre des choses, à avoir du recul, à réfléchir, à chercher. Et donc, voilà, je l'ai fait par moi-même.
Ouais, donc toutes les informations, tu les as récupérées par toi-même.
Oui.
Lorsque tu es passé à l'hôpital concernant la sclérose en plaques, est-ce que tu as eu des entretiens ou est-ce que tu as des médecins qui se sont entretenus à ce sujet avec toi ?
Non, pas du tout. Déjà, quand on m'a diagnostiqué la CEP, j'ai demandé d'où ça pouvait provenir. Le premier truc qu'on m'a dit, c'est « Ah, mais c'est peut-être le poids ». Et là, il faut voir ma réaction. J'ai mal parlé, clairement, au neurologue. Déjà, on m'annonce que j'ai une maladie incurable. En plus de ça, on me dit « Ouais, mais c'est parce que t'es grosse. Enfin, merci, Captain Obvious, j'ai un miroir chez moi. » Et du coup, je lui ai dit « Là, tout de suite maintenant, docteur, imaginez, je suis une personne mince. Quel aurait été le diagnostic ?» Bizarrement, j'ai entendu les mouches voler. Et pendant genre 5 minutes, il a réfléchi avec tout ce que j'ai pu lui dire pendant mon hospitalisation, tout ça. Et il m'a dit « Je pense que pour vous, c'est beaucoup le stress. » J'ai dit « Donc en fait, c'est dingue. Il faut qu'une personne vous remette les points sur les i, les barres sur les t pour que vous me sortiez un vrai diagnostic parce que de base, vous allez me sortir mon poids. » Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je me débrouille toute seule. Et c'est là que j'ai fait tout ce qui s'ensuit, quoi.
Et alors, qu'est-ce que tu as fait ?
J'ai cherché, parce qu'on ne m'a pas dit clairement ce que c'était la CEP, donc j'ai cherché d'où ça pouvait provenir, etc. Et moi, j'ai compris qu'en fait, mon problème de poids, ce n'est pas parce que j'aimais les fast-food ou la bonne nourriture. Alors attention, je suis gourmande, mais pas plus qu'un autre. C'est parce que c'est bien plus profond que ça et que j'allais en guérir, mais en guérissant d'autres choses encore.
Guérir de quoi ?
De mon obésité.
D'accord. Donc, tu te dis quand même, tu l'envisages quand même, pas que comme un mode de vie.
Alors, si. Jusque-là, en fait, je ne voulais pas changer. Mais quand j'ai eu ma sclérose en plaques, j'ai 2 nièces qui sont mes poumons, clairement. Et la deuxième, elle avait 5 ans. Et à l'époque, je fumais. Et j'avais vraiment le packaging qu'il ne fallait pas, quoi. Grosse qui fume, il n'y avait rien qui allait. Elle m'a serré très fort dans ses bras. Elle m'a dit, tu sais, Sanam, j'aimerais que tu arrêtes de fumer pour que tu vives le plus longtemps possible. Parce que t'es la meilleure tata et on voudrait que tu restes le plus longtemps possible à nos côtés. Ok. En fait, elle a réussi là où tout le monde a échoué. C'est ma mère, les gens, enfin, tout le monde a échoué et elle a réussi là, du haut de ses 5 ans. Et en fait, je me suis dit, Sanam, tu vas prendre les choses dans l'ordre. La CEP, tu ne peux pas en guérir, clairement. Fumer, tu peux arrêter, mais c'est compliqué. Eh bien, tu vas minimiser tes chances d'avoir des futures maladies. Eh bien, tu vas commencer par le poids. Pas parce que je vois ça comme une maladie, mais parce que je veux éviter d'avoir d'autres maladies.
Ça a été encore un nouveau déclic, on dirait, dans
c'est
ta
ça.
Vie.
En fait, je me dis, cette petite-là, ce qu'elle a dit, c'était de l'amour pur. Mais vraiment, et c'est pour ça que ça m'a donné un déclic, parce que l'amour que j'ai pour elle va au-delà en fait, d'un physique. Et pareil pour elle, en fait, elle-même, au-delà de mon physique. Donc, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle voulait garder sa tata auprès d'elle, pas maigrir pour une soi-disant société, quoi. Et donc, ça a été mon déclic.
Et à partir de ce moment-là, donc, qu'est-ce que tu as mis en place ? Qu'est-ce que tu as mis en route ?
En fait, à partir de ce moment-là, c'est simple, c'était le confinement. Le premier confinement en 2020. Et du coup, j'étais rentrée chez mes parents à Besançon. Et sur Instagram, un coach donnait des lives tous les soirs avec sa chérie, gratuitement, pendant 1 heure, pour que tout le monde fasse du sport. Et comme en amont, j'avais eu ce déclic-là grâce à ma nièce, je me suis dit, en plus, c'est gratuit, bonne ambiance, il fait beau, tu te mets dans le jardin et tu bouges ton popotin. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis liée d'amitié avec ce coach et sa femme, qui aujourd'hui sont des amis très, très proches. Il m'a offert un coaching, en fait, à mon retour sur Paris. Mon histoire l'a tellement touchée, parce qu'il faut savoir, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi des vis dans le dos. Ouais, je suis bionique.
Pourquoi ?
Parce que je suis tombée dans les escaliers de chez mes parents, en fait, et ça a touché mes lombaires. Et j'ai laissé traîner parce que j'avais juste un hématome. J'ai laissé traîner ça, sauf que l'année d'après, j'ai fait 2 infiltrations qui ont mal loupé. Elle m'a mis du produit sur mon nerf et en fait, ça a gelé mon nerf. J'ai fini paralysée. Mais mon neurochir m'a sauvée.
T'avais quel âge ?
J'avais 25 ans.
Ah
ouais. En 2016.
D'accord.
Ouais, et j'ai dû réapprendre à marcher à 25 ans et tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai 4 vis dans le dos, encore des séquelles dans ma jambe.
C'est marrant parce que tu nous annonces ça comme si c'était un rhume, en fait.
Ouais, mais parce qu'en fait, cette période-là de ma vie, je l'ai tellement bien vécue avec le corps médical que c'est un super souvenir. Et ouais, j'y ai pas pensé parce qu'en fait, j'oublie en fait que moi-même, j'ai des vis dans le dos parce que, encore une fois, un maximum, j'essaye de dire à mon cerveau que j'ai pas de maladie, en fait, faut me laisser loin de tout ça. Et pour moi, en fait, c'est pareil, bah, je vis avec des vis dans le dos. Mais... Et comme je marche aujourd'hui, il n'y a pas eu d'impact réel parce que j'ai failli perdre l'usage de mes jambes. Hein. Je suis passée à un mois de la paralysie.
Et tu as eu combien de temps de rééducation? Ça a duré longtemps, cette histoire?
Je me suis fait opérer en juillet 2016. Je remarchais en... Bah, je remarchais déjà quelques jours après l'opération.
D'accord.
Mais la rééduque, ouais, septembre, je voyageais déjà.
Et donc là, ça s'est bien passé avec le corps médical?
Ouais, ah ouais. Autant le neurochir que les infirmières, vraiment. Si les gens de la clinique Saint-Vincent de Besançon passent par là, je vous aime, je vous oublierai jamais. Et du coup, là, j'en garde un très, très bon souvenir. Et donc, voilà. Donc, mon histoire, en fait, si vous voulez, a touché Bibi, mon coach. Et il m'a offert ce coaching-là. Et donc, voilà. Donc, j'ai commencé à faire du sport 5 fois par semaine.
Tu parlais aussi de rééquilibrage alimentaire. Qu'est-ce que tu as rééquilibré?
Alors déjà, les mots régime, diète, à bannir clairement. Parce que depuis toujours, on nous apprend, les nutritionnistes, les diététiciennes, à moins manger alors que pas du tout. Il faut juste mieux manger. En fonction du corps, il y a un apport calorique à avoir par jour. Et en fait, c'est paradoxal parce que quand les gens me voyaient manger, me disaient « Mais Sanam, comment ça se fait que t'es grosse, tu manges rien ?» Bah ouais, parce qu'en fait, le peu que je mangeais déjà, c'était que des cochonneries. Chocolat, ah ouais, parce que le chocolat, j'adore ça. Et comme j'atteignais pas mes calories par jour, bah le peu que je mangeais, bah ça stockait. Et du coup, en fait, ça, on le dit pas, on l'apprend pas. Et c'est là, avec le temps, justement, avec cette nouvelle vie-là, que j'ai appris qu'en fait, non, j'ai un apport calorique à avoir par jour. Et si je veux maigrir, il faut juste que je sois en déficit, mais il faut pas que je me sous-alimente. Et c'est ça qui a fait que, bah ouais, clairement, rééquilibrage alimentaire. Et j'ai aucune restriction, je mange de tout.
Comment t'as appris tout ça?
Internet?
D'accord, parce que ce que tu dis, un nutritionniste en 2024, effectivement, c'est ce qu'il devrait dire. Et là où tu as parfaitement raison, c'est que les régimes, en fait, stricts, c'est à bannir, en fait. Pourquoi? Parce que les régimes stricts, en fait, ils font reprendre du poids. Il y a une réaction de défense du corps qui font qu'on reprend du poids. Et en fait, ce qui est aussi admis, c'est qu'il faut rien s'interdire, il faut juste faire attention. Et ça, c'est un point hyper important. En fait, t'es une sorte d'autodidacte du soin, quoi. C'est-à-dire que tu reprends ton activité physique, qui est un des piliers de la prise en charge, effectivement, et pas uniquement pour perdre du poids, en fait. Soit pour le stabiliser, mais surtout pour, effectivement, comme tu le dis, pas avoir les complications au niveau du dos, au niveau du cœur, etc. Et l'alimentation, pareil, tu te débrouilles toute seule et tu trouves ta méthode.
Je pars du principe qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, clairement. Et en fait, bah, je me documente et la femme de mon coach, avec le temps, est devenue coach en nutrition. Mais... Donc forcément, des fois, elle me donne des tips, des choses comme ça. Mais j'ai compris qu'en fait, et comme pour tous les aspects de la vie, tout est une question d'équilibre, en fait. De pas, au petit déjeuner, manger une tablette de chocolat, pour le soir, manger 1 kilo de laitue. Pas du tout, ça n'a pas de sens. Et en fait, de beaucoup boire. Ah oui, parce que beaucoup boire de l'eau, je tiens à le préciser. Parce que avant, les gens adultes boivent du café ou du thé le matin. Moi, je commence avec du coca.
Et depuis quel âge?
Au petit déj comme ça, c'est que vraiment en période depuis que je suis adulte. Hein. Parce qu'avant, bah, voilà, c'était restriction à la maison. Quand mon papa achetait du coca et tout ça, bah, j'en buvais en cachette. Parce que bah, je n'avais pas le droit, parce que ma mère, c'était « Ah, faut que tu maigrisses ». Et c'était beaucoup de restrictions. Bah, du coup, frustration. Du coup, on mange en cachette. On va prendre les gâteaux le soir pendant que tout le monde dort. Parce que voilà. Et c'est là qu'en fait, en étant adulte, de me dire bah, « En fait, dès le départ, ils m'ont vraiment... tellement mal guidée. Ça se trouve, j'aurais déjà perdu mon poids depuis toujours. Mais du coup, ça a tellement créé de frustration. Aujourd'hui, c'est dingue comment le cerveau fonctionne. C'est que quand on fait un régime ou qu'on s'interdit les choses, comme par hasard, on en a envie. Mais quand on sait qu'on y a le droit, eh ben, zéro envie.
Tout à l'heure, on a un petit peu abordé légèrement la psyché. Est-ce que toi, tu as bénéficié d'un accompagnement psychologique pour le stress ou pour des troubles que tu aurais pu avoir?
Bah, comme pour tout, non, j'ai dû le faire toute seule, comme une grande, avoir 33 ans pour comprendre les choses. Mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et c'est là où j'en veux un petit peu au corps médical. C'est justement pour ça, parce que toujours dire « oui, mais si t'es gros, c'est parce que tu dois manger moins ». Mais est-ce qu'on n'irait pas au vif du sujet, dire « mais pourquoi tu manges plus ? Pourquoi tu manges mal ?» Et pas juste dire « arrête ». Parce qu'en fait, on le dit pas souvent, voire jamais, mais que quand, par exemple, on a des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, c'est pour, en général, compenser quelque chose. Et pour ma part, ce quelque chose-là, c'est une enfance compliquée, une relation très compliquée avec mon papa. Et comme il est vivant, il a toujours vécu avec nous, etc., mes parents sont ensemble, Et comme je n'ai jamais eu cette vraie relation, par exemple, avec mon papa, bah, j'ai dû compenser, je pense, avec la nourriture. Ouais. Et ça, on ne nous le dit pas. On ne dit pas, bah, peut-être que cette petite-là, elle souffre de quelque chose. Est-ce qu'on n'irait pas la faire parler pour voir d'où vient le problème et non pas juste lui faire manger de la laitue comme une tortue?
Mais alors ensuite, qu'est-ce que tu as fait pour ça?
C'est là que j'ai compris que j'ai des failles aussi et que je ne pouvais pas tout faire toute seule. Il a fallu d'un événement l'année dernière, donc en 2023, qui m'a fait en fait sombrer en dépression. Une rupture amoureuse, mais qui a été très compliquée. Donc, j'ai fait une petite dépression et pour la première fois de ma vie, je suis allée voir un psy.
Et est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Donc, tu as vu un psychologue, un psychiatre? Qu'est-ce que tu as vu comme personne?
Je suis partie voir une psychologue, j'en ai vu plusieurs. Parce qu'on m'a toujours dit, Sanam, il faut que tu aies le feeling. Donc, la première, j'ai fait deux séances, c'était pas tip top. Et là, je suis encore en consultation avec ma psy que j'ai là et je vois. Et je vois, on a fait quelques séances et déjà, on voit beaucoup de résultats. Je suis beaucoup plus apaisée. J'essaie de comprendre les choses. Des fois, en fait, il y a des choses que mon cerveau sait, mais qu'il n'assimile pas. Je vais donner un exemple. Je sais que certaines choses ne sont pas de ma faute, mais je vais quand même m'accabler jusqu'au jour où, en fait, je vais le dire à voix haute. Et c'est là que je le comprends et je dis, ah ouais, en fait, c'est vrai, c'est vraiment pas de ma faute. Et c'est ça qui fait que je guéris petit à petit de tous mes maux. Et c'est ça qui fait que ça se voit sur le corps.
Donc, c'est quelque chose que tu conseillerais? La psychothérapie, voire un psychologue?
Mais clairement, et je regrette quelque part la culture dans laquelle j'ai grandi, parce que pour nous, voir un psychologue, c'est tellement tabou. C'est encore aujourd'hui, hein. Des fois, on dit à ma maman, mais maman, on va voir un psy. Ah, mais les psys, c'est pour les fous. Non, maman, c'est pas pour les fous. C'est si tu vas pas en voir que tu vas devenir fou, en fait. Et ça, clairement, ça fait partie de notre culture de non, en fait, on n'a pas le temps. Je vais vous dire un truc, et ça, je l'ai souvent entendu. La dépression, c'est une maladie de blanc. J'ai beaucoup d'amis africains qui me disent « Oui, Sanam, c'est une maladie de blanc parce que nous, en Afrique, on est tellement en galère entre les guerres, la famine, qu'on n'a pas le temps d'être en dépression et qu'il y a ça que dans les pays occidentaux parce qu'ils ont le temps, ils n'ont pas de problème. » Jusqu'au jour où ça vous touche réellement. Parce que on m'appelle la warrior, parce que j'ai une force mentale de la nature, mais jusqu'au jour où ça nous arrive, en fait, parce qu'on n'est pas infaillible, parce qu'on n'est pas des robots et qu'on a tous un cœur, en fait. Et que aujourd'hui, ouais, je le dirais. Si un jour j'ai des enfants, je leur dirais si vous avez besoin de parler et que bah vous voulez pas parler à maman ou à papa parce que vous osez pas, le psy, je vous le paye.
Est-ce que t'as mis d'autres choses en place pour préserver ta santé en général? T'as arrêté de fumer?
Ça va faire un an au mois de juin que j'ai arrêté.
Félicitations,
merci.
Bravo.
Et en vrai, c'est ouf ce que je vais vous dire, c'est dingue, mais. C'est pas la santé qui m'a fait arrêter, c'est l'argent. Ça coûte une blinde.
Ah ouais.
Mais bon, quand je dis ça à mes amis, on me dit, on s'en fout. Peu importe la raison, à partir du moment où ça t'aide à tenir de ne pas fumer. Et clairement, c'est ça, c'est mon leitmotiv. L'argent, parce que ça coûtait trop cher. Enfin, le prix, c'est horrible. Et bon, après, si en plus, bah, y a des effets positifs sur ma santé, je prends, hein, y a pas de souci.
Et là, pareil, pas d'accompagnement?
Non, en fait, j'avais déjà pensé à arrêter de fumer. J'ai essayé deux fois. Il faut savoir que chez nous, c'est très culturel, le narguilé, la chicha.
Ouais.
J'en ai fumé depuis que j'ai 15 ans. Donc, mes poumons, déjà, ils étaient morts. Déjà, hein, on va dire les termes. C'est juste que là, j'aimais la cigarette, mais je me suis dit, bon, allez, financièrement, c'est compliqué. T'as fait une promesse à ta nièce. Allez. Et là, la troisième fois, en fait, je suis partie voir un magnétiseur.
D'accord.
Et ça a marché. Et vraiment, j'ai arrêté ça à faire un an.
Ouais, et puis on rappelle, la chicha, ça a l'air tout doux comme ça.
Mais pas du tout, c'est pire que la cigarette.
Mais c'est pire que la cigarette.
Une tête à chicha, c'est 30 cigarettes.
Ouais, c'est ça.
Sauf qu'une tête à chicha, on la fume en une soirée.
Ouais, donc c'est un bon rappel, ça.
Ah ouais, c'est cancérigène, c'est horrible, c'est horrible.
On comprend vraiment que, voilà, t'as bénéficié de l'aide du corps médical de temps en temps, et de temps en temps, t'as décidé de t'en passer. Toi, est-ce que tu penses que le corps médical, il est bien formé pour accompagner les personnes en situation de surpoids ou d'obésité?
Non.
Pourquoi?
Pas du tout. Parce que on est vraiment sur le cliché de si t'as la grippe, c'est parce que t'es gros. S'il y a la famine dans le monde, c'est parce que t'es gros. Si tu te casses ton ongle, c'est parce que l'obésité fait que ton ongle va se décoller. Là, ce que je dis, c'est de l'ironie, mais c'est la réalité. Justement, avant mon opération du dos que j'ai subi, je commençais à avoir déjà des douleurs au mollet. Et à l'époque, j'étais partie voir le médecin traitant qui était pas très loin de chez moi. Et c'est drôle, hein, parce que c'est beaucoup ça dans le monde des gros. Les personnes grosses ou obèses qui maigrissent, elles oublient d'où elles viennent. Et en fait, ce médecin traitant-là, c'était une ancienne grosse. Et j'arrive dans le cabinet et j'ai pas eu le temps d'ouvrir ma bouche, lui dire ce que j'avais. Elle m'a dit « Non, mais de toute façon, si vous maigrissez pas, vous allez vous choper toutes les merdes du monde. Hein. » J'ai pris ma carte vitale et je suis partie. J'ai même pas payé la consultation. En fait, je suis pas venue sur mon temps de travail pour qu'on me dise que je suis grosse. J'ai un miroir. Et donc, il y a ça. Ou à chaque fois me dire « Oui, mais c'est parce que je suis grosse », alors qu'en fait, non. On est très, très mal accompagner les gros, que ce soit médical ou même dans la société, hein, d'une manière générale. Et parce qu'en fait, on diabolise beaucoup la personne en surpoids en disant que c'est de sa faute. Elle a qu'à faire le nécessaire. Ou même, vous le voyez hein, sur les réseaux, oui, mais si tu veux maigrir, t'as qu'à faire du sport et moins manger. C'est clairement comment on a formaté le cerveau humain, en fait, finalement, la pensée humaine de la société actuelle, de dire bah, c'est ta faute. Si tu es gros, tu l'as choisi, c'est de ta faute. Donc, on t'incrimine, en fait.
Ouais. Et ça, tu le retrouves aussi dans d'autres situations. Par exemple, dans l'addictologie, les gens qui vont être dépendants à certains produits, où on va les incriminer en leur dire qu'ils n'ont pas de volonté.
Ouais.
Ou les gens qui ont des troubles anxieux ou dépressifs, en leur disant que c'est de leur faute et que quand on veut, on peut. Sauf que, ça n'a rien à voir.
C'est exactement ça.
Selon toi, en reparlant du corps médical, qu'est-ce qui devrait être amélioré ?
Je ne vais pas dire tout, parce que ce serait mentir, parce qu'il y a quand même du bon dans le corps médical. Parce que depuis tout à l'heure, je dis que le corps médical n'est pas bon, mais non. Il reste quand même des personnes qui voient au-delà de l'obésité, qui justifient leurs années d'études et leur salaire en disant, bah, on cherchait un vrai diagnostic. Bah, ce serait en fait d'arrêter d'incriminer une personne qui est grosse parce qu'elle est grosse, parce que dans quasi 100% des cas, on ne l'a pas choisi en fait. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Les gènes, parce que ça, on ne le dit pas très souvent, mais les gènes, ça joue beaucoup. Encore une fois, les problèmes endocriniens, ça peut être aussi encore beaucoup de psychologie. Évidemment, on n'en parle jamais, parce que encore une fois, je ne suis pas née en disant « Oh, et si j'allais être obèse dans ma vie ?» Non, pas du tout. Je le suis devenue parce qu'il y a des soucis derrière ça. Et ce serait bien qu'on aille derrière ça, justement, et pas sur l'aspect physique, qu'on creuse un peu.
Ouais, mais tu le synthétises très bien. C'est plurifactoriel, en fait.
C'est
effectivement
ça.
Un côté psychologique. On étudie même le sommeil là-dessus, l'hérédité, le côté parfois endocrinologique, l'activité physique, l'alimentation. Et c'est plurifactoriel. C'est pas simple du tout, en fait.
Exactement. Et comment vous expliquer que depuis que je perds du poids, parce qu'avant, j'étais insomniaque, je dormais à 4 heures du matin, à 7 heures, j'étais debout. Aujourd'hui, je fais des nuits minimum de 8 heures. Étonnant? Coïncidence? Je ne pense pas. En fait, tout est lié, mais j'aimerais bien que le corps médical aille plus loin que l'aspect physique.
La bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, il y a des nouvelles recommandations qui sont sorties et avec une prise en charge comme ça, pluridisciplinaire, avec différents intervenants, au moins une dizaine, et qu'on pense que les choses, elles vont s'améliorer de ce point de vue-là.
Ben, je l'espère en fait, et c'est ça que j'essaye de divulguer sur les réseaux. J'espère que mon malheur fera le bonheur d'autres personnes.
J'aimerais bien qu'on parle un peu de conseils que tu pourrais donner aux hommes et aux femmes qui ont traversé les mêmes choses que toi. Avec le recul que tu as maintenant, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ?
Que rien n'est éternel, de ne pas se laisser abattre, que ce soit une maladie incurable comme la mienne, je ne sais pas moi, des accidents ou même l'obésité, qu'il faut se faire accompagner et qu'il ne faut surtout pas avoir honte de demander de l'aide à des professionnels, hein, évidemment. Et s'il faut en choisir 10 pour tomber sur le bon, il n'y a pas de souci non plus. Clairement, il faut se forger son mindset parce que ça peut nous sauver de belles situations et que bon courage, il en faut. Il va falloir s'armer de patience et surtout, la clé de toute chose, de s'entourer de bonnes personnes. Parce que l'entourage, c'est quelque chose de primordial.
Oui, c'est clair. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Sanam, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
1 million d'euros ? Non, je...
Ok, bah écoute...
Alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est la réussite d'aller au bout de mes rêves, comme l'a dit notre cher ami Jean-Jacques Goldman.
Et c'est quoi tes rêves ?
Je l'ai réalisé l'année dernière, c'est d'aller à New York. Et là, le nouveau plus grand, c'est d'aller y vivre. Parce que je sais que là-bas, avec le mindset que j'ai, la personne que je suis, je ferai carrière, clairement.
Bon, bah écoute, je te souhaite un bon voyage pour New York, alors.
Merci.
Sanam, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était super riche. Moi, j'ai adoré. Je pense que ça va aider énormément de personnes. Et je te dis à bientôt et on se retrouve en haut de l'Empire State Building dans quelques années.
Merci à toi de m'avoir reçu et j'espère que ça touchera plusieurs personnes. On se revoit à New York.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode. J'espère que la parole de Sanam vous a autant aidé que moi à comprendre cette pathologie encore trop souvent stigmatisée. Je la remercie encore vivement de nous avoir confié son histoire. Pour compléter ce témoignage, nous allons solliciter l'éclairage d'une experte. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande ces associations. Le CNAO, le collectif national des associations d'obèses, la Ligue nationale contre l'obésité ou encore l'APOP France, l'association pour la prise en charge et la prévention de l'obésité en pédiatrie. On se retrouve dans 2 semaines, même jour, même heure, pour entendre une autre histoire de patient. En attendant, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.
«
Ce podcast vous a été proposé par la plateforme Livie.